Je vais commencer cette prédication par une illustration, par une petite histoire que certainement vous avez déjà entendue. Mais tant pis, parfois il faut remettre les choses sur le métier pour revenir sur des choses essentielles. Et j'aimerais vous parler de cet homme, de ce maçon qui avait envie de rebâtir, ou plutôt de transformer sa maison. Et puis ce maçon avait pris une énorme masse. Il était face à un mur et il savait qu'il devait détruire le mur pour agrandir une pièce. Alors il a pris sa masse et puis avec ses deux mains, bien, bien solidement sur le manche, il a frappé une première fois dans le mur. Il n'y a rien qui s'est passé. Alors il s'est dit, c'est pas grave, je vais continuer. Il a pris une deuxième fois sa masse, le manche bien dans la main, et il a frappé encore une fois le mur. Rien ne se passait. Et il a continué comme ça, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 60 fois. Et voilà qu'au bout de la 70e fois, c'est plus facile en français, il y a une fissure qui a commencé à apparaître dans les murs. Il s'est dit, ah, ça y est, ça commence à bouger. Alors il a continué, il a pris sa masse et il a frappé, frappé, frappé. Et plus il frappait, plus le mur se craquelait. Et à la 100e fois, le mur est tombé. Enfin, il est arrivé au bout. Il est arrivé à ses fins. Parce qu'il a insisté, il a obtenu ce qu'il voulait. Et ce soir, j'aimerais avec vous utiliser un texte des Écritures où il est aussi question là d'un homme qui insiste parce qu'il a quelque chose sur le cœur et il ne va pas en démordre. Alors nous, on parlerait plutôt de persévérance, ok, mais j'ai voulu faire exprès de ne pas parler de persévérance et plutôt de parler d'insistance. C'est presque la même chose. Et je crois, sans vouloir être prétentieux, que le Seigneur a envie de dire à quelqu'un ce soir, ne t'arrête pas, insiste. Continue d'insister. Continue de demander. Continue d'aller de l'avant. Peut-être que tu t'es arrêté pendant un certain temps, mais c'est comme si le Seigneur voulait te dire, reprends là où tu t'es arrêté. Insiste. Et le texte que j'aimerais prendre pour support pour cette prédication se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. À partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Et c'est Nicolas qui va lire le texte. Merci Nicolas.
Donc je lis dans la version Louis II, 21. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin.
Merci beaucoup. Dans une autre parabole, Jésus utilise l'exemple d'une femme veuve qui dérangeait un juge parce que ce juge devait lui faire justice. Et il introduit cette parabole en disant, « Voilà comment vous devez faire, vous devez toujours prier. » Et cette parabole était aussi une parabole où Jésus montrait l'importance de l'insistance ou de la persévérance. Et là, dans ce texte, Jésus répond à un besoin bien réel d'un homme. Il ne s'agit pas d'insister pour des choses futiles, il s'agit d'insister ici pour quelque chose qui est vraiment hyper important pour la vie et l'existence de cet homme. Il s'agit de ne pas se tromper de cible. Alors, il y a là, dans ce texte, deux personnes que j'aimerais comparer l'une par rapport à l'autre. Évidemment, il y a Bartimée, le fils de Timée. Timée, c'était un homme très certainement qui était connu à l'époque, puisqu'il est cité ici. Et son fils s'appelait Bartimée. Il avait pris le nom comme ça, Bartimée. Et un commentateur dit qu'il s'agit là de l'image éternelle de l'homme dans ses besoins. C'est une image simple et touchante de quelqu'un qui est dans un besoin profond et qui va être rencontré par Jésus. Nous avons tous des besoins, Que ce soit des besoins naturels comme la nourriture, le vêtement, le logement, on a besoin aussi d'affection, on a besoin de famille, on a besoin d'amis, on a besoin d'être entouré. Et cet homme, lui, il n'avait certainement pas tout cela. En tout cas, il n'avait pas suffisamment d'argent pour vivre, puisqu'il était à la fois aveugle et surtout mendiant. D'ailleurs, c'était surtout sa situation d'aveugle qui l'avait conduit à la mendicité. Et pour lui, ces besoins naturels étaient fortement accentués justement parce qu'il manquait du nécessaire, justement parce qu'il était dans une situation de très grande précarité. Et cet homme cherche auprès de Jésus quelque chose de légitime, quelque chose dont il a besoin, quelque chose qui est impérieux pour lui. Ce n'est pas un caprice. Il ne tape pas du pied en disant « mais enfin quand même ». Pas du tout. C'est une question de survie. Dans nos villes, ici à Genève, très couramment, si vous prenez le tram régulièrement, ou le train, moins le train, mais plus le tram, ou les bus, ben, on a affaire très régulièrement à des hommes et des femmes qui viennent mendier. Ils jouent de la guitare, d'autres jouent d'une sorte de synthétiseur, du xylophone ou autre, et ces gens sont apparemment dans un besoin. Je dis apparemment parce qu'on ne sait pas toujours, mais lui, à cette époque, c'était effectivement le cas. Il était terriblement dans le besoin. Et cet homme venait chez Jésus parce qu'il savait que le Seigneur pouvait combler son besoin. Il a besoin d'une intervention pour pouvoir vivre une vie décente. Mais je me suis dit, en lisant ce texte, peut-être que nous avons tout ici, sur le plan matériel. Mais dans le cœur, est-ce qu'il n'y a pas des besoins qui souvent sont criants ? Est-ce qu'il n'y a pas souvent des besoins dans lesquels qu'on n'ose parfois même pas prononcer ou dire devant les autres, parce qu'on a honte, parce qu'on est gêné ? Le Seigneur a envie de te dire ce soir, quel que soit ton besoin, j'ai envie de te rencontrer et je peux le faire. Dieu veut rencontrer ton besoin, quel qu'il soit. Peut-être que tu viens régulièrement dans cette salle, dans cette chapelle, peut-être que tu présentes une certaine bonne image sur ton lieu de travail, voire devant des collègues de travail ou des amis, que sais-je, de la famille. Mais à l'intérieur, ça hurle, ça crie. J'ai tellement besoin d'eux. Il y a des années en arrière, j'étais dans cette situation où j'étais le clown de la famille. Mais le fait de faire le clown et de faire rire la galerie, en fait, masquait une profonde solitude. Un profond besoin d'être rencontré. Et ce besoin, je l'ai traduit et je l'ai exprimé au Seigneur alors que je ne le connaissais pas encore vraiment, en disant « Seigneur, si tu ne me rencontres pas, je vais à Calcutta aider les pauvres avec la sœur Teresa. Là, je sais que je te rencontrerai. Et là, mon besoin sera comblé. » Je n'ai pas eu besoin d'aller à Calcutta. Le Seigneur m'a rencontré dans ma petite chambre, dans ma maison en Alsace, et ça suffit. Une rencontre avec Jésus a suffi pour combler cet intense besoin de connexion, pour combler ce vide qu'il y avait au fond de moi. Et le Seigneur veut faire la même chose. Il y a cet homme qui a ce besoin tellement profond et il va au bon endroit pour demander à ce qu'il soit comblé. Il cherche et il va au bon endroit. Et puis, lorsqu'il est là, assis, regardez le texte, hein, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il est là, assis, parce que c'est certainement là, au bord du chemin, qu'il y avait beaucoup de passages et qu'il pouvait tendre la main ou alors qu'il avait sa petite corbeille là à disposition pour que les gens jettent une pièce. Il est là, assis, il y a quelqu'un qui passe et il sait, il entend dire que c'est Jésus. Il a entendu dire que c'était Jésus. J'ai envie de dire là que la réputation de Jésus l'avait précédé. Jésus aurait pu être n'importe qui, puisqu'à l'époque, beaucoup de gens portaient le nom de Jésus. Mais là, ce Jésus-là, c'était un homme particulier. C'était le Jésus de Nazareth. Et même à Jéricho, on savait que cet homme était un homme tellement particulier. On savait qu'il avait guéri des aveugles. On savait qu'il avait rendu les jambes à des estropiés. On savait qu'il avait nourri des foules. On savait tous les miracles qu'il avait faits. On savait qu'il prêchait et puis des choses extraordinaires se passaient. On savait que lorsque les gens s'approchaient de lui, les besoins les plus profonds étaient rencontrés. Bartimée était là assis, il était aveugle, il ne voyait pas ce qui se passait. Il savait qu'il y avait une foule, mais il entendait « C'est Jésus !» Il dit « Mais celui-là, j'ai entendu parler. Il faut que je lui présente mon besoin. » Et Jésus était d'autant plus un personnage particulier à cette époque que, dans l'histoire d'Israël, pendant 400 ans à peu près, Dieu n'avait plus parlé à son peuple comme il l'avait fait dans le passé. 400 années de silence entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Il s'était passé grosso modo 400 ans pendant lequel Dieu ne s'était plus manifesté au travers de la bouche d'un homme qui parlait avec autorité. Et voilà que tout d'un coup, ce silence se remplit. Voilà que tout d'un coup, un homme parle de nouveau de la part de Dieu. Et d'une façon tellement spéciale qu'il faut à tout prix que Bartimée puisse le rencontrer, Jésus de Nazareth. Alors vous avez vu ce qui se passe là ? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des mails, on ne pouvait pas s'échanger toutes sortes de nouvelles comme on le fait aujourd'hui. Mais à ce moment-là, le silence de Dieu se rompt et Dieu va parler à cet homme. J'ai envie de dire que le moment est venu pour cet homme de sortir de sa pauvreté intérieure et de sa misère extérieure. L'heure de Bartimée est arrivée parce que Jésus passe près de lui. Mon ami, j'ai envie de dire la même chose. Ton heure est peut-être arrivée. Peut-être que pendant des années, tu as prié toi aussi ce Dieu-là, Jésus. Peut-être que tu as fait monter devant lui toutes sortes de prières. Peut-être que tu as exprimé toutes sortes de besoins. Ce soir, ton heure est certainement arrivée. Le Seigneur va te parler. Seul dans ma chambre, alors que je priais le Seigneur, souvent en pleurant, en disant « J'ai tellement besoin que tu fasses quelque chose pour moi, je me sens seul. » Le 15 décembre 1979, le Seigneur est venu me rencontrer. Il n'y a pas eu d'ange, il n'y a pas eu d'éclair, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Mais là, dans le secret de ma chambre, j'ai plié le genou, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et j'ai dit, Seigneur, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je te l'abandonne. Je te la donne. C'en est fini de mes efforts. C'en est fini de ce que j'essaye de faire pour te plaire. C'en est fini de mes ressources à moi, même si je n'en avais pas beaucoup. Seigneur, je te donne ma vie. Et là, il est venu. Et là, il m'a rencontré. Dieu, Jésus, veut faire la même chose pour toi, quel que soit ton besoin. Quel que soit ton besoin. Tu peux te sentir la personne la plus minable sur terre. C'est justement grâce à ça que le Seigneur va te rencontrer. C'est justement grâce à ça que Jésus veut venir changer ta pauvreté contre une richesse absolument incroyable. Remplir ce besoin intérieur de solitude qui crie tellement fort et dire « Je viens pour remplir ta maison ». Lui donner un fondement, te faire tenir sur tes pieds, te redonner une nouvelle vie. Le silence de Dieu veut se rompre et Dieu veut parler dans ton cœur. Alors Bartimée crie, vous avez vu comment il fait ? Il entend que c'est Jésus de Nazareth et il se met à crier. Il saisit l'occasion là, il ne la laisse surtout pas passer. Et il crie, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Vous savez, Dieu n'a pas peur qu'on crie. Dieu n'a pas peur de nous voir crier. Dieu n'a pas peur de te voir hurler. Ça ne lui fait pas peur d'entendre ta voix. Tu peux te mettre en colère avec lui. Tu peux crier, tu peux hurler. Il n'a pas peur de t'entendre. Ça ne lui fait rien. Ou plutôt si, ça touche son cœur. Mais ça ne l'effraie pas. Dans nos cultures, dans nos milieux, on reste plutôt tranquille, sage. On essaye de ne pas trop montrer nos émotions parce que voilà, il ne faut pas être trop émotionnel, nanana, etc. Il y a des cultures où ce n'est pas comme ça du tout, où les gens ne se privent pas d'exprimer ce qu'il y a au fond du cœur. Il y a quelques années en arrière, j'étais devant le mur des Lamentations et il y avait là un homme qui sanglotait tout ce qu'il pouvait sangloter. J'aurais voulu aller m'approcher de lui, lui toucher l'épaule. Je me dis, mais je ne vais surtout pas faire ça, je vais le laisser exprimer sa peine devant Dieu. Je ne sais même pas ce qu'il dit, je ne comprends pas l'hébreu. Il était au bon endroit, il priait, il cherchait, il criait, il cherchait Dieu. Dieu n'a pas peur d'entendre ton cri. Ça ne lui fait pas peur, au contraire, vas-y. Quel que soit ce qui se passe au fond de toi, vas-y, exprime-toi. Alors il crie, Fils de David, aie pitié de moi. Et vous avez vu la réaction de la foule ? Plusieurs le reprennent pour le faire taire. Mais attends, mais tu te rends compte à qui tu parles ? Mais tu te rends compte ce que c'est ? Mais enfin, mais arrête, tu nous déranges. C'est comme quand on regarde la télévision, il y a un bon film qui passe, il ne faut surtout pas que le gamin se mette à pleurer, « Oh, flûte encore !» etc. Mais enfin bon, et surtout, on ne crie pas devant Dieu, quoi. Et surtout pas dans une église, ça ne se fait pas. Et puis Dieu est tellement saint, Dieu est tellement parfait, il faut respecter. Alors la foule essaye de le faire taire. Ça dérangeait. Oui, ça dérangeait. C'était la réaction peut-être de gens bien pensantes. Mais vous savez, lorsqu'il s'agit de besoins impérieux, il n'y a rien qui puisse nous faire taire. C'est trop fort. Alors on n'a pas besoin de hurler dans les rues à Genève, on peut aller trouver un endroit où on peut épancher son cœur. On peut aller dans une forêt. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de crier une injustice quelque part. Dans une forêt, ou alors d'aller se défouler, de donner des coups de poing dans un oreiller ou dans un punching ball, qu'importe, ou dans un sac de sable. Tu peux être comme ça devant ton Dieu, ça ne le dérange pas. Mais il y aura souvent des gens qui seront là aussi pour te dire « Attends, vas-y, quand même, mollo. Hein. » Il y aura des gens qui seront là pour se lever et faire obstacle, freiner ton élan. Mais justement, ne te laisse pas faire. Certains te diront peut-être « Attends, est-ce que tu es sûr de t'adresser à la bonne personne ?» Oui, continue. Si tu t'adresses à Jésus de Nazareth, tu t'adresses à la bonne personne. Ne te laisse freiner par personne. Il y avait un jour un paralytique qui certainement ne pouvait pas parler, en tout cas pas se déplacer, et puis il a été aidé par 4 personnes certainement, et puis ses 4 amis voulaient le porter devant Jésus. Premier obstacle, la cour devant la maison où était Jésus était toute petite. Et l'évangile de Marc nous dit que la cour était pleine à craquer. Pas possible d'amener cet homme, et encore moins sur un brancard ou sur un lit. Ah, punaise, un obstacle. On va laisser tomber ? Non. On va le monter sur le toit. Pour monter quelqu'un sur un toit, il fallait prendre des petits escaliers très étroits. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais toujours est-il que certainement, il y avait 2 en haut, 2 en bas, le paralytique accroché sur son lit ou, je ne sais pas, son brancard, et puis ils l'ont monté sur le toit. Deuxième obstacle. Troisième obstacle, il fallait faire une ouverture sur le toit. Et la Bible dit que, toujours dans l'évangile de Marc, que la maison dans laquelle Jésus se trouvait était pleine à craquer. Et ces gens, à 2 reprises dans l'évangile de Marc, il est dit que ces gens voulaient faire descendre ce paralytique devant Jésus, sous son regard. Obstacle après obstacle. Et la réponse du Seigneur à ces hommes, c'était de dire « voyant leur foi ». Obstacle après obstacle, ces gens ont persévéré. Ils ont insisté. Ils se sont dit, on ne va pas s'arrêter là. Cet homme, ce paralytique, doit être guéri. C'est notre ami. On veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Il faut qu'il soit placé devant les yeux de Jésus pour qu'il pose sa main et le guérisse. Obstacle après obstacle, ils ont insisté. Il y aura des gens qui te mettront des bâtons dans les roues. Insiste. Persévère. Te laisse pas faire. Les écoute pas. Insiste, encore, encore, encore. Fais comme ce maçon, prends ta masse et tape contre le mur jusqu'à ce que le mur s'écroule. Dans certaines circonstances, il faut vraiment être violent pour se saisir des grâces que Dieu veut nous donner. Alors bien sûr, ces personnes bien pensantes essayent de le faire taire. Et que fait Bartimée ? Bon, ben, je vais laisser tomber, il y a trop de gens. Jésus, de toute façon, a beaucoup plus à faire pour d'autres que pour moi. On entend souvent cette expression aussi, « Oh, mais les besoins des autres sont tellement plus importants que les nôtres. » So what ? Et alors ? Le Seigneur n'est-il pas capable de te guérir ? Ne veut-il pas te toucher toi ? Non, ce n'était pas la réaction de Bartimée. Mais Bartimée criait encore, beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Je me suis dit, mais, excusez-moi l'expression, mais punaise, s'il y en a un qui voulait quelque chose, c'est bien lui. Hein. C'est vrai. Il criait beaucoup plus fort. Il ne se laisse pas arrêter. Il insiste. Il doit se faire entendre. Sa cause doit être entendue. Lisons encore une fois la suite de l'histoire. Jésus s'arrête. Ah, là, il y a un élément nouveau. Jésus s'arrête. Il dit aux gens qui sont pas loin de ce paralytique, appelez-le. Et regardez la réaction. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Je dis, mais ils sont, excusez-moi l'expression, je dis, mais ils sont gonflés. Quand même. D'abord, mais tais-toi, tu nous déranges. Et puis dès que Jésus dit, non, faites-le venir. Dépêche-toi. Vous voyez, on ne peut pas compter sur les gens. On ne peut pas compter sur notre entourage. Ils sont tellement versatiles. Tantôt c'est comme ci, tantôt c'est comme ça. N'écoute jamais ce que les autres te disent, à moins que ce soit vraiment une parole de sagesse. Et s'il y a un besoin impérieux sur ton cœur, insiste, parce que Jésus veut s'arrêter près de toi. Vous savez, la foule ici était d'abord, on va dire, contre Bartimée, ensuite elle était pour lui. C'est aussi quelque chose qui est arrivé à Jésus. Lorsque le Christ est arrivé sur le mont des Oliviers pour descendre jusqu'à Jérusalem, la foule a pris des branches de palmier, des vêtements, a secoué tout ça devant lui, posé les vêtements par terre ou sur le dos du petit âne sur lequel Jésus était assis. « Hosanna au fils de David !» Quelques heures plus tard, dans le prétoire, ou plus tard, plutôt sur, devant Pilate, c'est la même foule, crucifie. Est-ce qu'on peut faire confiance à la foule? Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens? Pas forcément, pas tout le temps. Quel est ton besoin? Qu'est-ce qui te tient intérieurement? Insiste, te laisse pas arrêter. J'ai presque envie de dire, mais ils se moquent de qui, eux? Prends courage. Ah ben oui, ça c'est facile à dire quand on a essayé de décourager quelqu'un. Prends courage. Non mais attendez, prends courage. J'ai envie de te dire la même chose. Toi, prends courage, ne te laisse pas décourager. Les hommes et les circonstances pourraient être des obstacles dans ta vie et dans ta vie de foi. Mais c'est toi qui es concerné par ta situation. N'écoute pas ce qu'on te dit, à moins que ce soit sur la base d'une parole de sagesse. Continue de crier, continue de demander, continue de frapper à la porte de la salle du trône. Ton heure viendra, si ce n'est pas qu'elle est déjà venue. Et si tu as besoin d'entendre ça ce soir, eh bien tant mieux. Alors Jésus s'arrête et la rencontre se passe. Là, il n'y a plus que cet aveugle, ce mendiant aveugle, et Jésus. Et Jésus va poser une question pour le moins déroutante. Verset 51, Jésus pose la question à Bartimée. Vous l'avez lu, comme moi. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Quelle étrange question de la part du Messie. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais pour un aveugle, ça crève les yeux. C'est évident. Seigneur, tu ne peux pas me redonner la vue? Redonne-moi la vue. Ma vie va changer si tu me redonnes la vue. Pourquoi une telle question? C'est vraiment bizarre, hein? Mais en fait, je pense que le Seigneur voulait dire par là, Bartimée, qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Vous savez, le Seigneur n'est pas juste un distributeur de bénédictions, on donne une pièce et tout, que la chose tombe. Il y a quelque chose de plus profond. Vous savez ce que Jésus veut faire ici? Il veut établir un dialogue, une conversation, un cœur à cœur. Et ça, on va le remarquer plus tard. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce texte, il est dit que cet homme a été tellement touché qu'il a suivi Jésus. Ce n'était pas juste, excusez-moi l'expression, un profiteur. Il a eu cette bénédiction, il a reçu la grâce, mais ensuite il a suivi le Christ. Pourquoi? Non seulement il a retrouvé la vue, mais son cœur a été profondément touché. Dans la question que Jésus a posée, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Il y avait plus que « Quel est le type de bénédiction que tu veux ?» La 1, la 2, la 3 ou la 4? Et la réponse de l'aveugle est très simple, c'est cash, c'est direct, c'est simple. Redonne-moi la vue, j'ai besoin de ça, Jésus. J'ai perdu ce bien précieux, redonne-le-moi, s'il te plaît. Et regardez ce qu'il est marqué ici. Fais en sorte que je recouvre la vue. Ce qu'il voyait pendant un certain temps, il l'a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Maladie, accident, on ne sait pas. Mais Seigneur, je sais quelle était ma condition avant. Seigneur, je veux retrouver ce que j'avais avant. Quelle est ta perte? Qu'est-ce que tu as perdu? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne te le redonnerait pas? Et Jésus répond enfin, va, ta foi t'a sauvé. À quoi Jésus avait-il vu que cet homme avait la foi? À votre avis? Son insistance. C'était son insistance. C'était le fait qu'il a crié plus fort que ce que les autres voulaient bien entendre. Il devait crier. Parfois, on n'a pas grand-chose que nos cris. Mais Jésus dit, mais je vois ta foi derrière ton cri. Je vois ta foi derrière ton insistance. Si tu insistes, ça montre que tu as la foi. Vous savez, certaines personnes bien pensantes disent « Mais attends, on ne faut pas forcer Dieu. Si tu insistes, tu forces Dieu à faire quelque chose. » Mais enfin bon, qui peut forcer Dieu ? Attendez, Dieu est-il un homme pour se laisser forcer la main ? C'est quoi cette théologie bizarre ? C'est ramener l'homme à l'image de Dieu, pardon, c'est ramener Dieu à l'image de l'homme. Peut-on forcer Dieu à faire quelque chose ? Non, Dieu choisit souverainement. Dieu choisit souverainement de faire ce qu'il a envie de faire. Et puis d'autres diraient, mais tu sais, avant de prier comme ça, il faut que ce soit sa volonté. Il faut que ce soit sa volonté. Bartimée ne s'est pas tellement préoccupé de savoir si c'était la volonté du Seigneur. Il y avait un besoin là. Ça criait trop fort. Alors il ne s'agit pas, encore une fois, de demander n'importe quoi ou d'exprimer un caprice. Mais bon sang, quand ça hurle au fond de soi, vous ne croyez pas que le Seigneur voit le besoin ? Ne croyez pas que le Seigneur s'est laissé toucher son cœur. Ne croyez pas, comme on l'a entendu ce matin, qu'il a peut-être plus de compassion que nous pouvons en avoir. Prier selon la volonté de Dieu, c'est tout un chapitre. Mais moi, je vois des hommes, des dizaines et des dizaines, et des femmes, des dizaines et des dizaines, qui viennent, qui plient le genou devant le Seigneur en disant « J'en peux plus, fais quelque chose pour moi. » Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Je terminerai en disant la chose suivante. Je crois que le Seigneur t'attend ce soir sur le terrain de ta foi que tu as exprimé avec beaucoup d'insistance. Et peut-être même que tu as besoin d'insister encore. Tu as besoin de frapper encore. Il y a des domaines de nos vies où on a besoin de montrer qu'on sait vraiment ce qu'on veut. Et à un moment donné, Dieu dit « C'est bon, je le fais. J'ai vu. » Pourquoi Dieu met-il parfois tant de temps à répondre ? On ne sait pas. Comprendre Dieu, il faut se lever très tôt pour y arriver, dans certaines circonstances. Mais ce que je vois là, en tout cas, c'est qu'il y a un aveugle qui s'appelle Bartimée, ou si vous voulez, le fils de Timée. Vous savez ce que ça signifie, Timée ? Ça signifie honneur. Ça signifie dignité. Et cet homme, dans sa situation, avait perdu son honneur d'homme, sa dignité d'homme, parce qu'il était réduit à l'état d'un mendiant, aveugle mendiant. Et je crois que Jésus voit aussi ton besoin de retrouver ta dignité, ton honneur. Et peut-être que les cris et l'insistance que tu fais monter devant Dieu depuis des semaines ou des mois sont en rapport avec cette dignité, cet honneur qui t'a été volé ou sur laquelle tu as été bafoué. Le Seigneur dit, le temps est venu où je veux te redonner ta dignité. Je veux te redonner ton honneur. On ne connaît pas les circonstances de votre vie, mais tous ceux qui ont rencontré le Christ à un moment ou un autre, tous ceux qui sont passés par des circonstances absolument atroces ont besoin d'un fils de Dieu qui comprend ce que c'est que de relever l'honneur et la dignité de quelqu'un. Il y avait un roi dans l'Ancien Testament qui avait été emmené captif par un peuple vainqueur. Il avait été enfermé en prison et je crois de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, vous me corrigerez si c'est le cas, mais je crois même qu'on lui avait crevé les yeux. Et puis à un moment donné, cet homme qui avait croupi dans sa prison avait reçu la faveur d'un autre roi qui était monté sur le même trône. Et il est dit, je crois que c'est dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, tout à la fin, que l'honneur de cet homme a été restauré. Parce que ce roi bienveillant l'a invité à sa table. Le roi humilié avait reçu de nouveaux vêtements et il était de nouveau honoré par le roi vainqueur. On a affaire dans ce texte à un roi qui est bien plus puissant que celui qui a relevé la dignité de ce roi vaincu. Jésus veut te donner une nouvelle dignité si c'est ça que tu as perdu. Il veut relever ton honneur. Il veut relever ton honneur. De telle sorte que tu peux quitter cette chapelle ou demain matin, alors que tu as prié le Sauveur, tout d'un coup tu sens une nouvelle noblesse habiter dans ton cœur. Tu peux enfin relever la tête, te tenir droit devant les hommes et devant Dieu en disant « Tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu as entendu mon insistance, tu as vu mon cri, tu as vu combien j'étais humilié, j'étais mendiant émotionnellement. Et Seigneur, tu m'as donné une nouvelle dignité. Maintenant, je peux marcher la tête haute, non pas avec orgueil, non pas avec suffisance, mais j'ai retrouvé ma dignité. Je suis quelqu'un de nouveau. » Le Seigneur veut faire ça pour toi. Il y a juste une chose pour cela que tu as besoin de faire. C'est très simple. C'est de venir à lui et de dire, « Seigneur, j'ai cherché, j'ai crié, j'ai insisté. J'ai entendu parler de toi, Jésus de Nazareth, fils de David. Maintenant que j'entends que tu es capable de faire ça pour moi, Seigneur Jésus, je décide de tout abandonner entre tes mains, ma vie présente, ma vie passée, même ma vie future. Je te donne ma vie, je te donne mon existence, je te donne ma mendicité, je te donne ma pauvreté, je te donne mes péchés. Fais de moi un être nouveau. » Et il le fera. C'est très simple. Le Seigneur ne te demande pas d'aller décrocher la lune. Il te demande simplement de courber le genou devant lui. Et il te rencontrera. Est-ce que c'est ce que tu veux faire ce soir? Alors si c'est le cas, c'est le moment de courber le front, de plier le genou, même intérieurement, et de prier aux autres têtes.